toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alézard et Anne-Sophie Pierry, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Suite de notre série donc consacrée à la superstition. Après avoir évoqué l'articulation de la superstition avec la foi religieuse, nous allons nous intéresser ce matin à une figure que l'on rencontre de plus en plus, à la fois dans les régions où elle est traditionnellement implantée, mais aussi dans nos sociétés modernes occidentales. Le chaman, sage, conseiller, voyant, mais aussi guérisseur. Les chamans sont connus, reconnus pour leur capacité à soigner certains maux. Alors qu'est-ce que ces chamans nous disent de nos propres représentations de la médecine, du corps, de la manière dont nous pensons ici, en Occident, la guérison de ce corps, trop souvent uniquement physique et trop peu aussi sociale et culturelle. Le chaman, nouvelle figure de la guérison postmoderne, c'est la question qu'on se pose dans Culture Monde.
Voici l'exemple de Zhangel d'Ulaanbaatar, qui avait un cancer du foie. Il est venu dans notre centre et on a découvert qu'en fait, il était malade de la vésicule biliaire et il a pu guérir.
Nous croyons aux chamans sur la terre. Nous faisons la magie du ciel contre les dépenses. Nous appelons Genghis Khan, qui est descendu du ciel éternel en faisant le rituel du sacrifice à la montagne Burksan-Saldoun. Nous faisons le rituel du sacrifice du feu.
Du documentaire de la cure privée au rite collectif de Laetitia Merli dans ce pays, la Mongolie, où le chamanisme religion d'État. La Mongolie, un pays où les chamans ont pignon sur rue et où ils sont parfaitement intégrés dans le tissu social, mais où ils ne remplacent pas pour autant le médecin. Le plus souvent, les deux figures coexistent, cohabitent et peut-être sont complémentaires. Guérisseurs, rebouteux, coupeurs de feu, magnétiseurs, les termes sont nombreux pour qualifier ces individus aux aptitudes particulières et mystérieuses. Au-delà de leurs capacités réelles, il est difficile de totalement disqualifier le fait que parfois, ils parviennent à traiter différents maux avec une certaine efficacité, à tel point d'ailleurs que certains centres hospitaliers ne nient même plus aujourd'hui y avoir recours, y compris dans nos sociétés occidentales, pourtant réputées rationalistes, objectivistes, mécanistes et peu enclines à l'ouverture aux pratiques traditionnelles, souvent vues comme archaïques. Alors comment dans ces sociétés coexistent médecine dite conventionnelle et cure chamanique? Quelles approches de la personne souffrante, de la maladie, du corps au sens large, cette coexistence suppose-t-elle? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le chamanisme et que guérit-il? Comment les théories New Age ont-elles participé d'un engouement nouveau pour les cures chamaniques? Comment la médecine légitime, conventionnelle, dite rationnelle, réagit à ce renouveau des médecines douces? La figure du chaman pourrait-elle incarner une ouverture future et bien nécessaire d'une médecine occidentale trop sûre d'elle-même? Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous. D'abord, David Le Breton qui est avec nous ici en studio. Bonjour David Le Breton.
Bonjour Florian Delorme.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, anthropologue du corps, professeur à l'université de Strasbourg, un spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain, spécialiste de la question de la douleur en particulier, on va en parler, et donc aussi de facto de la médecine dite conventionnelle, auteur de nombreux ouvrages. On peut penser à Anthropologie du corps et modernité, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, et très récemment Tenir, sous-titré « Douleur chronique et réinvention de soi ». On verra peut-être comment justement le chamanisme permet de réinventer ce corps. Également avec nous en duplex depuis Aix-en-Provence, Laetitia Merli, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes, vous, anthropologue, une spécialiste du chamanisme, en Mongolie en particulier et en Sibérie, ainsi que des thérapies psychocorporelles en Occident. Et vous êtes réalisatrice de nombreux documentaires. On entendait un extrait de l'un de vos documentaires, justement, mais il y en a eu bien d'autres. La revanche des chamans, chamans en ville, etc., etc. Et puis, auteur, vous, de l'ombre à la lumière, de l'individu à la nation, ethnographie du renouveau chamanique en Mongolie post-communiste. On aura l'occasion d'en parler ensemble. Laetitia Merli, on va peut-être commencer avec vous pour poser un petit peu quelques bases de définition. Quand on regarde ce qu'est un chaman, on nous dit que c'est un être humain qui se présente comme l'intermédiaire ou l'être intercesseur entre l'humanité et les esprits de la nature, à la fois sage, thérapeute, conseiller, guérisseur et voyant. Voilà ce que l'auditeur qui ira regarder sur Wikipédia pourra retrouver. Cette définition correspond-elle aux différentes formes de chamanisme que vous avez eu l'occasion de rencontrer? Et comment vous définiriez-vous, Laetitia Merli, ce chamanisme?
Oui, c'est vrai. Et vous avez raison de parler de chamanisme au pluriel, parce que justement, il faut bien distinguer le chamanisme mongol, le chamanisme amérindien. Donc on voit bien, quand on fait du terrain, qu'on a quand même affaire à des systèmes différents. Et si on veut parler de définition, on peut revenir à ce terme même de chaman. Hein, ce terme qui nous vient des Tungouses, de Sibérie orientale, et qui a été propagé par les Russes à partir du XVIIe siècle. Ce terme a ensuite été francisé et complètement adopté et propagé par les Occidentaux, qui l'ont appliqué à diverses traditions dans le monde. Donc c'est ainsi qu'on arrive en fait à qualifier des individus complètement diverses, comme des sorciers, des guérisseurs, des devins ou des sages. On arrive aujourd'hui à qualifier tous ces gens-là de chamans. On a fait un grand sac comme ça, un grand fourre-tout, où tout ce qui est autre que des religions dominantes, en fait, deviennent du chamanisme.
Il y a quand même un point commun dans tout
exactement,
ça.
Exactement, voilà, oui,
bien
sûr.
C'est le fait que le chaman permet d'accéder à un certain état de conscience, et en l'occurrence, un état de conscience modifié.
Oui, tout à fait. Puis quand un terme a autant de succès et perdure dans le temps, c'est qu'il recouvre un véritable besoin et qu'il est tout à fait valide. Donc, quand on parle de chamanisme, en effet, on parle de cette capacité du praticien à entrer directement en contact avec des entités spirituelles, des ancêtres, des esprits de la nature, pour intercéder en faveur des humains qui en font la demande, pour appeler la chance et la bonne fortune, la guérison, la réussite, etc. Donc bien sûr, on a un système très on a un format quand même schématiquement. Mmh. Voilà, on sait qu'on parle de la même chose quand on a ce type de praticien.
Sachant que cet état de conscience modifié, on peut l'atteindre de différentes manières. Ça peut être en consommant du cactus hallucinogène du côté du Mexique, ou ça peut être tout simplement en écoutant le son du tambour du côté de la Mongolie, par exemple. Vous nous rappelez, en quelques mots, la géographie finalement de ce chamanisme, on va dire pour l'instant traditionnel, parce qu'il y a un néo-chamanisme occidentalisé qui prend un certain essor ces dernières années. Mais d'abord, pour ce qui est du chamanisme, disons traditionnel. Les grandes aires géographiques.
Oui, mais comme je vous disais, aujourd'hui, on a commencé à parler des chamans en Sibérie, en Mongolie, en Asie, en Corée, etc. Et puis, bien sûr, en Amérique latine, en Amazonie, etc. Mais aujourd'hui, on parle aussi de chamanisme africain. Voilà. Donc, c'est vraiment très... ce terme-là s'est propagé complètement. Donc, on peut parler de chamanisme de façon très, très large.
Alors, je voudrais qu'on regarde...
Mais originellement, c'est Sibérie et Mongolie.
Mmh. Je voudrais qu'on regarde peut-être en particulier la question de la guérison, la question de la santé, utilisons ce terme-là, pour doucement glisser vers aussi les sujets de travail, les sujets d'études de David Le Breton. Le chaman, il peut être utilisé évidemment pour beaucoup de choses. Pour des conseils, tout simplement, pour lire l'avenir, pour communiquer avec les esprits, pour parler aux ancêtres, mais aussi pour soigner. Quelle place, justement, cette prise en charge, alors on va dire des questions de santé, a-t-elle dans la pratique chamanique, en tout cas comme vous l'avez, vous, rencontré, en particulier du côté de la Mongolie et de la Sibérie? Est-ce que la souffrance physique et ou mentale est une raison qui pousse, justement, les gens à aller voir des chamans?
Oui, tout à fait. On dit du chaman mongol qu'il répare. D'ailleurs, les rituels de base sont appelés des réparations. Vous voyez, donc ils ne réparent pas forcément le corps dans l'idée d'un soin. Non, c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire, ils réparent le chemin de la bonne fortune. Ils ouvrent les portes de la chance. Donc c'est comme ça qu'il peut réparer le portefeuille ou la réputation, ou la réussite, etc. C'est-à-dire qu'il va purifier, nettoyer, et il répare le chemin qui mène à la guérison. Donc c'est tout à fait complémentaire d'un système de soins moderne, occidental, on va dire. Hein. Quelqu'un qui a une maladie va aller à l'hôpital, il va peut-être subir une intervention chirurgicale, et en même temps il ira voir le chaman pour demander la chance et et que l'opération se passe bien ou que le traitement thérapeutique se passe soit efficace. Enfin voilà, donc c'est complètement thérapeutique.
Et
enfin,
ça permet d'insister sur le fait que les gens pensent parfois, c'est que le chaman ne remplace pas le médecin, absolument pas.
Non, pas du tout.
Les deux coexistent, cohabitent. David Le Breton. Voilà donc un premier cadre posé grâce à Laetitia Merli. Vous vous intéressez, vous, depuis très longtemps à cette question de la douleur. C'est évidemment ce qui est central dans votre dernier livre, Tenir. Vous dites qu'il est temps d'avoir une vraie réflexion sur cette médecine conventionnelle qui devrait être plus centrée, disons, sur la question de la douleur et sur l'expérience intime des personnes afin de les aider. Sinon à guérir, dites-vous, au moins à accomplir une réinvention de soi. Autrement dit, une réorganisation radicale de leur existence avec et autour de cette douleur chronique à tous les niveaux du quotidien, autrement dit, à tenir. En quoi précisément le chamanisme peut-il participer à cette réinvention de soi? En quoi peut-il nous aider précisément à tenir et peut-être à pousser la médecine à repenser la place du corps, la place de la douleur dans les institutions médicales, hospitalières, occidentales?
Oui, on l'a vu à travers les propos de Laetitia. Le chaman, il soigne plutôt le rapport au monde. Il immerge l'individu à l'intérieur de sa communauté et il prend acte que peut-être une bonne part de ses difficultés sont inscrites à l'intérieur de sa vie, de son histoire de vie. Alors que la médecine occidentale est plutôt centrée sur le corps. Et même moins que le corps, je dirais l'organisme. Toute l'histoire de la médecine, qui est passée fondamentalement par l'histoire de l'anatomie, et donc l'histoire de la dissection, est plutôt une espèce d'investigation extraordinaire autour de l'anatomophysiologie. Mais sommes-nous des organismes? Voilà, quand nous nous regardons tous les deux, nous nous voyons en tant qu'hommes, ou on se voit en tant qu'individu. Donc la médecine a isolé un aspect de l'individu, sous la forme du corps, pour ne s'intéresser finalement qu'au corps. Je dirais que la médecine est une science du corps, elle n'est pas une science humaine, ou elle n'est que résiduellement une science humaine, sauf évidemment si le médecin, à travers la clinique notamment, réintroduit cette dimension du sensible, cette dimension de l'histoire de vie, qui manque quand même souvent dans la médecine d'aujourd'hui, où on a souvent l'impression justement d'avoir accompagné notre corps, si je le dis de façon un peu ironique. On a accompagné son corps pour la consultation, le médecin à la limite parfois nous coupe la parole en regardant la radiographie pour dire oui je vois, bon, on a l'impression qu'on est quasiment...
La radio est plus importante que l'être, que l'individu qui est en face du médecin quasiment.
Voilà. Et là, s'agissant de la douleur chronique, évidemment, les impasses de la médecine sont absolument fulgurantes, puisqu'on définit la douleur chronique comme une douleur qui dure au moins 3 mois, mais qui peut durer parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui peut durer toute une vie, et en même temps, donc des médecins qui n'arrivent pas à trouver les modalités de soulagement de cette souffrance.
La souffrance, David Le Breton, c'est vrai qu'on a souvent cette idée selon laquelle la médecine devrait, en tout cas c'est ce qu'on attend d'elle, soigner tous les maux et peut-être en particulier répondre à cette question de la douleur. Finalement, aujourd'hui, très souvent on dit il est intolérable de souffrir. Sauf qu'en pratique, on voit que la mise en place d'une réponse adéquate, purement thérapeutique pour répondre à cette douleur est parfois extrêmement compliquée, que c'est une vision aussi extrêmement techniciste, mécaniste de la chose. Pourquoi finalement, David Le Breton, est-ce que la douleur est devenue à ce point, en tout cas du point de vue de la médecine telle que vous nous la décrivez, donc d'abord et avant tout une médecine, une science du corps, pourquoi est-ce qu'elle est devenue à ce point insupportable? Intolérable.
Moi, je crois qu'elle l'était déjà dans les années, pour les générations précédentes. Mais c'est vrai qu'il y avait des systèmes de sens, comme les religions, par exemple, qui venaient encadrer, en quelque sorte, l'expérience religieuse. Au début du XXe siècle encore, un bon nombre de nos contemporains considéraient que leur souffrance était une sorte de don à Dieu. En tous les cas, dans la tradition catholique, moi, dans la tradition protestante, évidemment, mais dans la tradition catholique, il y avait ce sentiment que la douleur était une manière de participer souffrances du Christ sur la croix. C'était une forme de rédemption du péché originel, et puis c'était une manière également finalement de vivre sur terre une rédemption des péchés, un mot m'échappe là, mais en tous les cas faire de la terre une sorte de lit de douleur pour accéder plus vite au paradis en quelque sorte. Par contre, à partir des années 4, enfin il faut dire que l'Église de toute façon a rompu avec ça déjà à la fin des années 50, Il y a eu des papes qui ont pris position pour dire qu'un même un catholique très fervent devait se soigner avec tous les moyens que la médecine mettait à sa disposition, même dans l'accouchement, prenant le contre-pied de l'idée tu accoucheras dans la douleur. Déjà à la fin, au moment de l'accouchement psychoprophylactique, de l'accouchement dit sans douleur, des papes prennent position pour que les femmes utilisent également ces techniques-là. Mais plus on avance vers le monde d'aujourd'hui, et plus en effet on vit dans un monde de technicisation, plus les croyances s'effacent, et plus on est en quête de solutions techniques. C'est-à-dire on attend d'une molécule qu'elle vienne résorber la douleur. Et tous les anciens systèmes de protection volent en éclats. Même les systèmes de protection plus culturels, comme par exemple dans les traditions populaires, pendant longtemps il y avait ce sentiment qu'être un homme, un vrai, c'était résister à la douleur, c'était ne pas s'écouter, c'était prendre sur soi. Et on entend encore d'ailleurs ce genre de propos dans nos campagnes. Aujourd'hui, quand même, de moins en moins de gens sont dans cette logique-là, considèrent que dès lors qu'ils souffrent, il y a une réponse technique quelque part, avec un certain fantasme aussi de toute puissance de la médecine que vous avez évoquée, et puis parfois avec le sentiment que le médecin n'est pas très compétent s'il n'arrive pas à soulager sa douleur.
C'est peut-être la raison aussi pour laquelle le néo-chamanisme, dans sa version occidentalisée, connaît un tel essor, mais on va y revenir dans un instant avec Laetitia Merlich. Je poursuis un tout petit peu et je reviens à ma question initiale. Et en la centrant peut-être davantage sur cette question de la douleur. En quoi le chamanisme peut-il justement nous permettre de repenser nos représentations de la douleur, selon vous ?
D'abord, le chamanisme renvoie à une toute autre vision de l'humain. Le chamanisme, ou le néo-chamanisme, nous renvoie à une dimension cosmique, à une dimension aussi communautaire, à un sentiment d'appartenance. Quand vous participez à ces rituels-là, vous êtes également inséré à l'intérieur d'un public. J'ai vécu un certain nombre de ces expériences au Brésil. C'est pas le chamanisme au Brésil. Ce sont plutôt des rites de possession comme le candomblé, l'umbanda. Pour moi, ça a été vraiment des moments fondamentaux dans mon existence. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis plus retourné sur les terreros, mais je me souviens de moments particulièrement intenses, émouvants. Pour ma part, ça m'a remis au monde. Et ça permet aussi d'ailleurs de dénoncer cette idée de superstition, qui est évidemment un jugement de valeur, puisque même un anthropologue comme moi peut être absolu. Et puis d'ailleurs, de nombreux anthropologues comme Roger Bastide, Jean Ziegler, etc., ont été des hommes affectés, en quelque sorte, qui se sont impliqués, qui se sont engagés dans ces cérémonies-là. Donc moi, ça a contribué à une métamorphose, un retour d'une certaine manière au lien social à un moment où j'étais un peu perdu, un peu en perdition.
La superstition, donc, c'est toujours la croyance de l'autre.
C'est toujours la croyance, vous avez raison. Mais c'était aussi un peu ce que disait Montaigne, les barbares, c'est toujours les autres.
Je me retourne du coup vers vous, Laetitia Merli. On le disait, on trouve des pratiques chamaniques un peu partout dans le monde, au fin fond de l'Asie centrale, en Amérique latine, du côté du Mexique ou du Brésil, comme nous le disait David Le Breton. Mais ce chamanisme, il a également fait son apparition au plus près de nos environnements urbains, au plus près de nos sociétés occidentales. Désormais, des chamans ou parfois prétendus chamans se réapproprient des pratiques chamaniques dans une version, disons, revisitée, dans une version new age, une sorte de néo-chamanisme occidentalisé. Que vous inspire, Laetitia Merli, cet essor du néo-chamanisme dans nos sociétés contemporaines occidentales où on n'avait pas l'habitude de le voir, c'est vrai? Et que vous semble révéler ce besoin, et peut-être en particulier concernant justement la représentation de nos corps, concernant la question de la douleur qu'on évoquait avec David Le Breton à l'instant, Laetitia Merli.
Oui, il y a vraiment cette idée de représentation, de conception de la maladie complètement globale. C'est-à-dire on soigne pas le corps, mais on soigne vraiment l'individu réinscrit dans une histoire psychogénéalogique, dans un territoire, par rapport vraiment à des esprits ancêtres, des lieux. Donc toute cette mouvance est assez logique. On va dire aujourd'hui, suite à des pertes de repères, etc. Et puis un peu aussi, les gens ont perdu confiance aussi peut-être du côté de la médecine moderne, etc. Donc en effet, il y a un véritable engouement. Enfin, on voit ça depuis les années 2000, il y a des rassemblements, des stages... Mais voilà, on est vraiment à la limite entre le développement personnel, le spirituel. Les gens, ils vont pas forcément pour soigner des maladies. Donc voilà, c'est encore quelque chose de plus vaste.
Et ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est que on est pas forcément dans une approche directe, purement en tout cas individuelle, individualiste. Et c'est peut-être une des spécificités justement de la pratique chamanique, c'est que tout ça se fait encore. Alors vous avez raison, en groupe, vous avez raison, c'est parfaitement globalisant, on ne traite pas seulement le corps, on traite l'esprit, on traite les relations sociales, les relations culturelles, donc c'est extrêmement globalisant, mais c'est aussi un enjeu que celui de traiter précisément ces mots en groupe, en communauté, avec les autres.
Oui, pas forcément, parce qu'il y a aussi des consultations individuelles. Voilà, il y a des rassemblements, mais comme disait David, c'est ce sentiment aussi d'appartenance à un groupe, de parler lors de cercles de parole. Voilà, aujourd'hui, il y a aussi tout ce renouveau des cercles. Alors, des cercles de parole, le féminin, le masculin, des cercles d'hommes, des cercles de tambour. Donc, il y a quand même cette idée de se rassembler pour pouvoir parler de ces mots, hein, de ces différents problèmes, mais aussi de ces mots du corps. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment cette idée qu'on n'est pas dans la superstition ou la croyance. On est dans une mise en contexte, une mise en situation pour vivre une expérience. Et une fois que cette expérience, elle est vécue, elle ne fait plus partie de, elle n'est plus de l'ordre de la croyance ou de la superstition. Les gens y vont pour vivre une expérience. Alors ils peuvent avoir une expérience tout à fait marquante, juste du fait de parler dans un groupe. Vous voyez, donc on est loin des chamans de Mongolie ou des esprits de la nature, etc. Mais il faut pas oublier ce côté très développement personnel qu'on retrouve dans cette mouvance.
Oui, David Le Breton, cette expérience finalement soigne elle aussi.
Oui, elle soigne aussi.
Elle doit participer de la guérison.
Bien sûr. Dans l'histoire d'ailleurs de l'anthropologie, il y a eu le grand texte de Mauss sur l'effet de l'idée de mort quand elle est suggérée par la communauté. Ce texte où donc l'individu, pensant qu'il est victime d'un sort ou autre, va se laisser mourir. Ce texte est commenté de manière magnifique par Claude Lévi-Strauss qui va mettre en œuvre à partir du chamanisme, justement, l'idée de l'efficacité symbolique. L'efficacité symbolique, c'est l'efficacité du sens. C'est donc à la fois l'efficacité de la relation, mais aussi de systèmes de représentation auquel adhère évidemment le patient, entre guillemets, et puis le chaman, avec la validation de toute la communauté. Et ça produit donc des efficacités, ça produit des effets de changement, en quelque sorte. Et donc la personne qui était mal dans sa peau, ou qui avait un problème pathologique, très souvent va en effet retrouver une guérison, vous retrouvez en tous les cas un rapport au monde plus heureux au terme de la cérémonie.
Vous dites, Laetitia Merli, qu'il y a un nom qu'il faut retenir quand on parle de néo-chamanisme New Age, c'est Michael Arner, qui est un anthropologue lui aussi, américain, qui a fondé le Core Shamanism, une sorte de chamanisme universel, et finalement il incarne très bien ce glissement progressif du chamanisme qui est passé d'un système de représentation et de pratiques indigènes à étudier, et donc entre autres par vous-même anthropologue, à un système, dites-vous, supposément originel et universel, avec un processus entre les deux d'objectivation, d'appropriation et d'intégration. Laetitia Merli.
Oui, il a gardé des techniques qui fonctionnaient et il en a fait ce qu'on appelle ce core shamanism, c'est-à-dire un chamanisme essentiel, universel, en prenant des techniques un peu diverses. Mais bon, on va dire qu'au départ, il a été initié avec de l'ayahuasca, voilà, dans un chamanisme amazonien. Il a vécu des expériences et puis ensuite il a découvert le chamanisme au tambour. Il s'est aperçu que ça pouvait induire aussi de la transe et donc il a fait un chamanisme comme ça, dépouillé des contingences culturelles et tout à fait adapté à notre monde occidental.
Et de quand date cette réappropriation? Pardon, je vous en prie.
Ouais, c'est les années 80. Lui, il a fait du terrain dans les années 56-57 en Amazonie. Mais bon, après, voilà, c'est années 60-70. Et puis aujourd'hui, il y a des écoles en Europe. Il y a des stages un peu partout dans le monde.
Oui, il y a des stages. Voilà, il y a même un tourisme chamanique qui s'est développé beaucoup ces dernières années.
Le voyage au tambour. Ouais. L'enlèvement de quelque chose de négatif et le recouvrement d'âme. Voilà. Donc, il y a un peu des techniques de base qu'on retrouve aussi dans le chamanisme mongol. Mais voilà, c'est complètement dépouillé du folklore, on va dire, de tout ce qui peut être particulier aux différentes cultures.
Oui, je parlais de tourisme chamanique, il y a beaucoup d'Occidentaux qui se rendent dans les régions où vivent ces chamans, en Mongolie, en Sibérie, pour y rencontrer des pratiquants auprès de qui ils cherchent à être formés. Il y a un tourisme chamanique, avec peut-être d'ailleurs un rapport extrêmement consumériste avec ces pratiques chamaniques, hein, Laetitia Merli.
Oui, enfin, en ce qui concerne la Mongolie et la Sibérie, on est loin d'un tourisme de masse, donc
c'est
ça
marginal.
Reste assez raisonnable. Oui, mais la démarche marginale, elle-même. Ouais. Voilà. Et souvent, il y a des malentendus. Vraiment, il y a des quiproquos, on va dire, sur les attentes, hein, entre ces occidentaux et puis les chamans traditionnels locaux qui n'ont pas l'habitude de traiter la maladie de la même manière. Parce qu'il y a vraiment cette conception de la maladie qui est différente, hein. Comme on disait, le chaman, il réinscrit l'individu dans son histoire. Mmh. Donc c'est vraiment, on est sur le couple envie, jalousie, voilà, tout ce qui peut entraîner du sort ou du mal et du malheur a affaire aussi à la vengeance des esprits. Bon, des ancêtres ou des esprits de la nature, mais aussi de l'envie et de la jalousie d'autres humains, ou un propre sentiment de frustration et de rancœur. Mmh. Voyez.
Est-ce que vous diriez qu'en
parfois pour les occidentaux à réfléchir à tout ça, enfin, à penser la maladie en ces termes-là.
Est-ce que vous diriez qu'en retour justement l'intérêt des occidentaux et cette réappropriation des pratiques chamaniques a tendance, lorsqu'ils reviennent justement dans les aires géographiques traditionnelles chamaniques, est-ce que ça a tendance à dévoyer précisément le chamanisme dans sa version la plus traditionnelle ?
Alors justement, le chamanisme n'est pas dogmatique ni figé. Il a toujours évolué. On peut parler de chamanisme au pluriel, même quand on est en Mongolie ou en Sibérie. Hein, y a un proverbe mongol qui dit qu'il y a autant de chamanisme que de chamans, puisque finalement, ils réinventent à chaque fois leur propre tradition. Mais au contraire, eux voient cela d'un bon œil, puisque ça va enrichir leur pratique. Il y a aujourd'hui pas mal de chamans mongols qui viennent en France lors de festivals ou donner des stages, recevoir en consultation, etc. Et quand ils rentrent chez eux, bah, ils continuent à avoir des consultations aussi avec des mongols. Et du coup, bah, ils ramènent aussi de France ou d'Europe certaines idées. Et donc comme ça, ils vont enrichir leur propre pratique. Et eux, s'en trouvent plutôt, enfin, ils trouvent ça plutôt positif, quoi.
Ouais, les chamans, ils
pensent que le chamanisme, justement, doit se diffuser et que eux aussi doivent enrichir leur pratique.
David Le Breton, les chamans sont plus enclins à l'ouverture que nos médecins occidentaux.
Faut pas non plus trop généraliser, parce que c'est absolument vrai qu'il y a bon nombre de médecins, notamment beaucoup de médecins de la douleur, qui sont des hommes ou des femmes infiniment ouverts à la pluralité du monde, qui s'intéressent énormément aux sciences humaines et sociales, qui essaient d'introduire ces connaissances-là dans la relation qu'ils ont avec leurs patients.
Et qui parfois y parviennent, parce que tout à l'heure, je disais, il y a, par exemple, on retrouve dans certains centres hospitaliers, je me souviens d'un article qui avait été diffusé il y a quelques années, je crois, dans La Croix, mais je suis pas sûr, sur les coupeurs de feu, et il y avait un centre hospitalier en France, je ne sais plus où, qui faisait appel effectivement à ces coupeurs de feu, parce que de fait, ils parvenaient à avoir des résultats, et donc on les avait intégrés. Alors un peu, peut-être sans trop les montrer, mais en fait, ils étaient là.
Mais c'est très ancien, vous savez, parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore étudiant ou tout jeune chercheur, je connaissais dans la région Tourangelle un certain nombre de barreurs de feu, par exemple, qui en effet étaient sollicités régulièrement par les lieux où l'on soigne les personnes brûlées, par exemple, parce que les médecins savaient que l'efficacité du barreur de feu était infiniment plus puissante que l'efficacité des traitements qu'on pouvait leur donner. Et ce mode d'accommodation, en quelque sorte, que Georges Balandier appelait le recours à la contre-modernité, on le rencontre énormément quand même dans nos sociétés. Mais sous des formes, en effet, un peu feutrées, parce que ça ne va pas très bien et avec ce côté un peu officiel, un peu rationnel de la médecine telle qu'elle est incarnée par l'hôpital, par exemple. Mais dans les pratiques, on sait qu'il y a des infirmières, il y a un certain nombre de médecins qui introduisent d'autres recours. Puis d'ailleurs, ce sont aussi les recours aux médecines dites parallèles, comme l'homéopathie, l'acupuncture ou autres, dont les médecins savent que leurs patients y recourent très régulièrement.
Et donc ce mouvement d'ouverture, il est là en réalité. Il est là, pour moi, il y a des freins, des obstacles, mais il est là. Oui. On parle cette semaine de superstition, la revanche des chamans, le chaman, cette nouvelle figure peut-être de la guérison postmoderne. Laetitia Merli et David Le Breton sont nos invités ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va retrouver justement une nouvelle invitée pour continuer à parler de ces rituels chamaniques du côté de la Sibérie et de leur potentiel guérisseur. Bonjour Isabelle Célestin-Lopiteau.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychologue et psychothérapeute au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU Bicêtre et vous êtes par ailleurs directrice de l'Institut français des pratiques psychologiques corporelle, et présidente également de l'association Thérapie d'ici et d'ailleurs. Donc vous avez beaucoup, vous travaillez, Isabelle Célestin Lhôpitaux, sur la question de l'hypnose, sur la transe hypnotique et la transe chamanique dans plusieurs pays, notamment en Inde et en Sibérie. Vous êtes par ailleurs donc psychothérapeute dans un centre hospitalier français. On va essayer justement de comprendre ce que les pratiques chamaniques vous apportent, vous, dans votre approche finalement de la psychothérapie, disons, à l'occidental. Vous êtes rendu dans, notamment dans des régions de Sibérie pour y observer des rituels chamaniques, dans la région vers le lac Baïkal, etc. Comment, on va dire, la maladie, de façon générale, de façon générique, est-elle interprétée, représentée selon vous dans la culture chamanique telle que vous l'avez côtoyée en tout cas, et en particulier dans les rituels de soins que vous avez eu l'occasion d'observer, Isabelle Célestin Lhôpitaux?
Alors la maladie dans ces régions sibériennes, qui sont des régions sibériennes de Sibérie orientale, elle est perçue comme une rupture dans la fluidité, une rupture dans le contact avec la nature. Si quelqu'un est malade, c'est à un moment donné qui n'est plus dans un rapport correct avec la nature, avec le monde animal ou peut-être avec le monde des esprits. Et le chaman est là pour réorganiser, aider à réorganiser ce lien finalement avec la nature, avec les autres et avec les esprits.
Donc il faut retrouver l'équilibre avec la force de la nature. Il y a un rituel, évidemment, pour ce faire. Expliquez-nous d'abord un peu comment est-ce qu'on prépare tout ça. Il y a d'abord une préparation de l'espace sacré. Décrivons un peu les choses.
Exactement, c'est ça. Lorsque quelqu'un a un problème, il va voir, donc de façon logique, d'abord, les personnes, les Sibériens, vont aller voir le médecin. Mais si ça se chronicise, ils vont aller voir le chaman. C'est-à-dire qu'ils vont, de façon logique, comme on peut d'ailleurs voir en Occident le parcours de soins des patients, aller d'abord vers la médecine scientifique, habituelle. Et s'il y a quelque chose qui se chronicise, ils vont aller voir le chaman. Et là, le chaman va préparer un espace sacré. C'est-à-dire que à un moment donné, pour le soin, il y a besoin qu'il y ait un passage entre l'espace profane et l'espace sacré. Et donc le chaman va organiser cet espace, va repositionner le patient par rapport aux points cardinaux, il va repositionner le patient au sein de sa communauté, il va y avoir d'autres personnes de la famille qui vont être là, des villageois, même par rapport aux animaux, il y aura une présence pendant les rituels d'animaux qui peuvent être sacrifiés ou qui peuvent être présents. Et il y a vraiment tout un travail à travers cette géographie sacrée où le patient, à un moment donné, sort de sa conception habituelle pour entrer dans un autre espace. Bien sûr, ça, c'est un espace de transe, c'est-à-dire que le patient va lâcher son fonctionnement habituel pour entrer dans un autre type de perception. Ce qui est particulier dans ce type de rituel de soins chamanistes, c'est que le chaman lui-même va rentrer donc en transe pour amener le patient à passer ce seuil, à lâcher son fonctionnement habituel pour pouvoir se relier et être autrement dans sa vie.
Vous parlez du patient et vous parlez du chaman, mais ce ne sont pas les deux seuls acteurs de tout ça. Il y a aussi un groupe qui les entoure.
Exactement. Ce que nous montrent les rites chamaniques, qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est qu'on n'est plus dans une psychologie individualiste. Et d'ailleurs, c'est pas l'individu qui est au centre. C'est d'abord l'ensemble, le tout, la globalité, la nature. Et si quelqu'un a un problème, c'est qu'il s'est trop délié de cette globalité et de cette nature. Donc c'est pour ça que ce sont des traitements qui vont être en permanence. Le patient n'est pas isolé, ce qui est d'ailleurs très utile pour un patient qui a une douleur chronique ou qui a un problème chronique. La symptomatologie va avoir justement un impact, une tendance à isoler le patient. Là, dans le rituel même, le patient va être remis en contact avec son groupe, avec son village, avec sa famille, et puis avec la nature et avec des conceptions parfois donc cosmiques.
Encore une petite question et puis je ferai réagir David Le Breton. Mais dans ce contexte que vous nous avez décrit, quelle est la fonction de la transe ? Parce que la transe, c'est une réalité, c'est également une réalité physiologique que pour le coup, on arrive très bien à mesurer avec nos appareils hyper modernes. Quelle est la fonction de la transe et qu'est-ce qu'elle produit sur la personne concernée, et en particulier lorsque c'est une personne souffrante, puisqu'elle l'est, et que l'on cherche à libérer, à apaiser ?
Je pense que c'est la question fondamentale et c'est la question moi qui m'anime dans mon travail de recherche anthropologique. La transe, si on revient même à l'étymologie du mot transe, la transe ça veut dire passer un seuil. Et donc la fonction de la transe est de faire passer un seuil. faire passer le patient, le chaman aussi, le seuil de la conscience habituelle, complètement focalisé sur le problème. Un patient qui arrive pendant un soin, il est immobilisé par sa douleur, par sa dépression, par sa peur. Il est comme figé, immobilisé. Il n'est plus dans le mouvement de la vie. La transe, en remettant du mouvement, et alors quand on voit les chamans en Sibérie, c'est vraiment des mouvements de transe qui sont très importants, le chaman va remettre en mouvement et sortir ainsi, en tout cas proposer ce dispositif pour faire sortir le patient de l'immobilisation. Et la fonction de la transe, elle est aussi celle-là, vraiment d'amener quelqu'un à lâcher sa conscience habituelle, la sensorialité habituelle, pour tout d'un coup percevoir autrement, mmh. et donc faire émerger aussi d'autres solutions, d'autres ressources.
On change son mode de perception, on entre dans une perception plus ouverte que vous appelez la perceptude. David Le Breton, réaction peut-être ?
Pour moi, le chamanisme nous renvoie finalement à la pluralité des mondes. Il nous rappelle que toute réalité sociale et culturelle est construite et qu'il y a des millions finalement de manières de s'immerger dans le monde, de le comprendre et d'agir sur lui. Et c'est facile de trouver des équivalents, même ici à Paris. Vous prenez une rue parisienne, vous allez avoir un médecin rhumatologue, vous allez avoir un acupuncteur, vous allez avoir un homéopathe, un auriculothérapeute, un naturopathe. Si vous avez des maux de dos, vous allez avoir un chiropracteur, un ostéopathe, etc. Si vous prenez ces différentes médecines, chacune d'entre elles véhicule une vision du corps fondamentalement différente de l'autre, une vision de la maladie différente, une manière de la prendre en charge complètement différente également. Sans compter que ce même individu qui recourt à la fois au rhumatologue, à l'acupuncture et à l'homéopathie, peut-être va-t-il suivre en même temps des cours de yoga, par exemple, ou pas des cours, mais participer à des sessions de yoga, ou est-il adepte d'arts martiaux, par exemple, là encore, de toute autre représentation de l'humain. Et même, pour terminer là-dessus, il y a des sociétés humaines où la notion de corps n'existe pas. C'est-à-dire, on considère qu'il y a une évidence, en quelque sorte, de la dimension incarnée de l'humain. Voilà, j'aime bien l'idée que corps s'écrit en français avec un S. Je sais bien que c'est pas du tout l'idée d'un pluriel, mais c'est plutôt de l'étymologie. Mais il n'y a pas un corps, il y a une multitude de corps, et chacun de ces corps est immergé à l'intérieur d'une culture. Finalement, on vit dans un monde d'interprétation. Il n'y a pas quelque part du vrai qui s'opposerait à du faux. Il y a des interprétations qui s'affrontent, qui débattent ensemble. Et puis, il y a des efficacités qui sont évidemment différentes. Mais dont le patient est le maître d'œuvre. C'est le patient qui potentialise en quelque sorte l'efficacité
des
soins qu'on lui
donne. C'est lui qui décide de la superposition des interprétations.
Oui, alors déjà dans ses recours, hein, dans le pluralisme médical, mais également à travers la manière dont il va recevoir les soins, les paroles qu'on lui donne. Il faut aussi d'ailleurs que le thérapeute ait une qualité de présence, une forme de conviction, une sincérité, une générosité qui fait que le patient se sent impliqué en quelque sorte. Et ça, c'est la force d'ailleurs du chamanisme. Ou des guérisseurs traditionnels dans nos campagnes, il n'y a pas encore bien longtemps. C'est le sentiment que l'autre est impliqué dans une volonté de nous guérir. Et à partir de là, donc chacun de nous va potentialiser en quelque sorte l'effet du traitement. Ça peut être une molécule, si on est devant un médecin qui est vraiment engagé envers nous pour nous soulager, mais ça peut être une opération plus symbolique, je sais pas, un signe de croix ou une parole murmurée par un guérisseur dans le monde rural d'aujourd'hui. Si on sent l'autre mobilisé pour nous venir en aide, il y a une efficacité symbolique, comme disait autrefois Lévi-Strauss, qui va se mettre en œuvre.
Une dernière question pour vous, Isabelle Célestin-L'Hôpital, avant de retrouver ensuite Laetitia Merli, qui est toujours avec nous à Aix-en-Provence, que je demande de patienter encore quelques instants, parce qu'on va revenir vers vous dans un très court instant, Laetitia Merli. Mais Isabelle Célestin-L'Hôpital, vous nous avez dit la question de la transe est en réalité centrale dans cette affaire-là. Vous êtes, je le disais vous, aussi une spécialiste de la transe hypnotique, donc de l'hypnose en réalité. Quel lien est-ce que vous établissez entre les rituels de soins chamaniques, notamment celui que vous nous avez décrit à l'instant, et l'hypnose? Est-ce qu'on peut comparer les états de conscience modifiés, puisqu'il s'agit bien de ça, à la fois dans l'hypnose et dans ces pratiques chamaniques, est-ce qu'on peut comparer les états de conscience modifiés dans l'un et dans l'autre cas?
Oui, bien sûr. Moi, ça a été d'ailleurs ce qui m'a poussée à faire ce travail. Je suis partie de l'hypnose et l'hypnose m'a amenée à m'intéresser à d'autres états de conscience. L'hypnose, on ne l'a pas inventée à notre époque. Elle a des racines. Elle s'inscrit dans une tradition, justement. Et l'hypnose, on pourrait même dire que c'est notre façon actuelle et culturelle d'expérimenter la transe, et on peut l'expérimenter dans un cadre thérapeutique ou médical avec justement l'hypnose est de plus en plus utilisée dans les hôpitaux, dans les centres antidouleurs, en anesthésie, pour créer de l'hypnoanalgésie, pour même parfois développer de l'hypnosédation, mais aussi pour traverser des difficultés dans un cadre thérapeutique de dépression ou de phobie. Et il y a un point commun, évidemment, entre la transe que l'on peut trouver dans ces rituels et notre façon d'utiliser l'hypnose. Parce que quand on a un patient qui a une douleur ou qui a une dépression et qui vient pour changer, on va l'amener par l'hypnose à lâcher prise. Ça ne veut pas dire perdre le contrôle, mais lâcher prise, ne plus fonctionner avec sa représentation habituelle de la maladie pour pouvoir faire émerger quelque chose d'autre et qu'il y ait une activation des ressources qui se fassent. Et comme vient de le dire David Le Breton, le point commun aussi essentiel, c'est que ça n'est absolument pas seulement une technique, que ce soit dans le cadre de l'hypnose ou de la transe chamaniste, c'est vraiment une remise en relation du patient et du praticien. Il y a vraiment une relation hypnotique, une relation à travers la transe qui va se mettre en place avec un travail qui se fait à ce moment-là, non plus de technicien ou de sachant à patient, mais d'être à être, véritablement.
Merci beaucoup Isabelle Célestin Lhôpitau d'avoir été avec nous. Je rappellerai deux de vos ouvrages, Soigné par les pratiques psychocorporelles et Changer la thérapie, par la thérapie du chaman au psychothérapeute. Les deux ouvrages étaient parus chez Dunod. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.
Quand elle est sortie de l'hôpital, on l'a emmenée au centre Esprit de l'Ours. Les chamans ont fait des rituels et joué du tambour pour elle. Depuis, son état s'améliore de jour en jour. Elle a recommencé à parler, marcher, manger. Elle va beaucoup mieux.
Tu as des maux de tête ?
Oui, ça craque là.
C'est là ?
Petit bout à bout de ce documentaire « Revanche des chamans » dont vous êtes l'auteur, hein, Laetitia Merli, un film documentaire tourné en 2010 en République de Touva, donc en Russie, qui présente la vie quotidienne d'un centre chamanique, l'Esprit de l'Ours, dirigé par Karaoul Tiulouchevitch, chaman suprême de la République. Je voudrais qu'on s'intéresse quelques instants avec vous, Laetitia Merli, au cas de la Mongolie. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « De l'ombre à la lumière, de l'individu à la nation, renouveau du chamanisme en Mongolie post-communiste ». C'est le fruit d'un long travail d'enquête auprès de chaman mongol de la capitale Oulan-Bator. Alors, il faut rappeler quelques éléments. Au XVIIe siècle, la Mongolie, c'est le cœur de l'Empire mongol, puis ensuite gouverné par la dynastie Manchu Tsing à la fin du XVIIe, de la fin du XVIIe à 1911, date à laquelle l'indépendance de la Mongolie est proclamée à la faveur de la chute de l'Empire chinois. Et puis, à partir de là, bien qu'officiellement indépendant, bien sûr, Oulan-Bator devient un satellite de l'URSS où, évidemment, les pratiques chamaniques sont interdites. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment progressivement les Mongols ont redécouvert les pratiques chamaniques? Et ce qui m'intéresse peut-être moi en particulier, est-ce que ce retour d'une certaine manière des pratiques chamaniques n'est pas aussi le moyen de réparer, on parle de guérison, de réparer l'identité nationale mongole? Laetitia Merli.
Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque cette période de répression a duré pratiquement 70 ans et les Mongols ont été coupés de leur culture. Donc c'est vrai que dès le milieu des années 90, ils ont retrouvé avec bonheur les religions, la culture, mais aussi la musique, la littérature. Enfin voilà, faut vraiment imaginer cette longue période d'oppression où les arts et la religion en général étaient complètement mis au banc de la société, interdit, les moines ont été fusillés, les chamans ont été envoyés dans des goulags, etc. Donc ça a été assez dramatique au niveau historique, familial, etc. Donc dans ce retour au chamanisme, en effet, il y a cette idée de réparation de l'histoire, de retour à des valeurs emblématiques, culturelles et identitaires. Et l'engouement pour le chamanisme aussi est venu un peu de ce sentiment de frustration et ce sentiment de revanche, du coup, à prendre sur l'histoire.
Et donc il est devenu un élément à part entière de l'identité nationale.
Voilà, aujourd'hui. Oui, oui. Et en plus, ce sentiment aujourd'hui est conforté par les Occidentaux, qui en plus s'intéressent à leur culture, parce qu'il y a aussi cette idée de colonialisme ou de prosélytisme religieux, où pendant des années, des siècles, on va dire, le chamanisme a été vu comme vraiment la religion archaïque et arriérée. Et puis aujourd'hui, des touristes occidentaux viennent en Mongolie s'intéresser à cette religion. Donc il y a aussi un peu cette revanche sur l'histoire pour dire, bah, regardez, peut-être que au contraire, le chamanisme est peut-être la religion du futur.
Eh ben voilà une bonne nouvelle. Nous, au moins occidentaux, nous servons à quelque chose. Là, en l'occurrence, à co-reconstruire l'identité nationale mongole à travers ses pratiques chamaniques. On va retrouver un nouvel invité. On va prendre la direction du Kazakhstan, pays dans lequel la tradition du chamanisme est aussi profondément ancrée dans l'histoire du pays. Il faut rappeler que sous la période soviétique, là encore, et jusqu'à l'indépendance, le chamanisme est interdit. Les chamans doivent abandonner donc leurs pratiques ou les vivre dans la clandestinité. Mais depuis, bien sûr, là aussi, ils sont de retour. Ces pratiques s'inscrivent dans un retour en force plus général des religions et peut-être en particulier de l'islam. On va retrouver Askar Joumageldinov, qui est docteur en psychologie à l'Université catholique de Lyon. Il a travaillé sur les questions identitaires et culturelles de son pays d'origine, donc le Kazakhstan. Comment est-ce qu'il explique que ces chamans issus traditionnellement des milieux ruraux soient devenus aujourd'hui aussi présents en milieu urbain? Il est au micro d'Anne-Sophie Pierry.
Alors, ils ont rempli un certain niche de vacuum un peu idéologique, justement. Donc déjà, juste après l'indépendance, il n'y avait pas vraiment d'idéologie, donc le pays était juste à commencer à se construire. Il y avait beaucoup de besoins déjà, donc il y avait plusieurs facteurs qui interviennent. Évidemment, le facteur économique tout d'abord. Aller chez le médecin à l'hôpital, c'était cher, coûteux, alors que les guérisseurs, vite, ont proposé leur service à prix très flexible. Donc souvent, il n'y a pas de tarif fixe, il se contente avec la somme donnée par le patient. Donc ça, c'est une chose. Beaucoup de choses qui s'est passé dans la vie économique que l'État n'a pas pu répondre à tous ses besoins. Donc il n'y avait pas de psychologues qualifiés en nombre suffisant. Et plus, la question religieuse aussi est devenue d'actualité. Donc voilà, tous ces facteurs ont permis d'avoir besoin de ces thérapeutes dans le milieu urbain. Quand j'ai parlé avec les guérisseurs, j'ai posé cette question, quel type de population vient vers vous? Elles disent, écoutez, il n'y avait pas de critères. Donc il y a des jeunes étudiants qui viennent nous demander comment trouver un travail. Donc les thérapeutes deviennent à cette situation comme les conseillers professionnels. Il y a parfois des businessmen qui viennent écouter, j'hésite si je signe le contrat, est-ce que c'est bénéfique pour moi ou non. Donc là, il y a des conseils pour les businessmen. Il y a des familles qui sont en train de se divorcer, qui viennent aussi chercher le conseil. Donc les guérisseurs toujours aussi répondent à leurs problèmes.
Si je comprends bien, les guérisseurs dans ces milieux urbains ont un vrai rôle social.
Voilà, donc ils sont comme les médiateurs, ils font comme un peu travailleurs sociaux, ils sont comme les psychologues. Et ils font des prévoyances, etc., et tout ce qui est un peu ésotérique, voilà, paranormal, comment dire. Ils travaillent aussi avec les businessmen, donc leur champ d'activité est très vaste. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils se sentent très bien dans le milieu urbain, parce qu'il y a autant de demandes, autant de problèmes que les médecins classiques, les médecins biomédecins, comme on a dit, ou les psychologues diplômés, ne peuvent pas satisfaire à 100% à toutes leurs questions.
Voilà. Vous parlez tout à l'heure de ces pratiques thérapeutiques qui ne peuvent pas être dissociées de la religion. On peut prendre par exemple l'exemple du rituel du zikir, connu dans le soufisme kazakh, qui désigne en fait la séance chamanique de guérison. Donc, comment l'arrivée de l'islam a-t-elle modifié ces rituels religieux de la guérison?
Tout ce qu'ils font pour eux, c'est l'islam, c'est la religion islamique. Et c'est pour ça que j'évite même d'utiliser ce terme chamanisme, justement, en travaillant aussi avec ce type de guérisseur. Voilà, donc c'est toujours l'islam. Donc il est vrai qu'il est mélangé avec les anciennes pratiques et plus avec les nouveaux éléments des sciences ésotériques d'aujourd'hui. Mais dans la base, c'est toujours l'islam qui prend la place centrale. En même temps, on ne peut pas dire que c'est que l'islam parce que quelle que soit l'origine ethnique, les patients viennent et participent à ces séances collectives. Il n'y a pas de barrière ethnique ou religieuse dans notre pratique. Il a fait le même effet, voilà, sur le patient, quelle que soit sa religion. Donc, ce qu'il faut observer, que c'est quelque chose, une pratique très dynamique, qui est très flexible, qui s'adapte vite aux besoins et à la réalité de la vie socio-économique et politique même dans la société. Et c'est pour cela, moi, je pense que les guérisseurs traditionnels resteront toujours demandés dans le milieu urbain. Voilà.
D'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont vraiment légitimés légalement.
Voilà, ça fait 25 ans et ils étaient légalisés, on peut dire, d'une certaine façon que leur pratique est devenue reconnue comme médicale et à même niveau comme la profession libérale. Voilà.
Askar Djoumagheldinov, donc docteur en psychologie à l'Université catholique de Lyon, au micro d'Anne-Sophie Pierry. Peut-être le mot de la fin, David Le Breton, et peut-être en particulier en réaction à ce que nous disait à l'instant Askar Djoumagheldinov, c'est-à-dire, il nous expliquait que ces guérisseurs traditionnels, qui existent depuis extrêmement longtemps, ont finalement été légalisés il y a maintenant 25 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose ici en France? Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question précisément de formaliser, institutionnaliser, légaliser, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, le recours de, alors, médecine parallèle, en l'occurrence, on en a parlé beaucoup, nous, de chaman, mais comment faire avec cette affaire?
Les médecines traditionnelles sont en voie de disparition dans nos sociétés traditionnelles. Les guérisseurs des campagnes ont de moins en moins de possibilités de transmettre le don, entre guillemets. Et il m'arrive parfois, d'ailleurs, de rencontrer dans des formations que je peux animer sur la prise en charge de la douleur ou autre, des personnes qui me disent, moi, mon grand-père m'avait transmis le don pour soigner les brûlures, le zona, ou d'autres choses de cet ordre-là, mais je trouve que c'est un peu ridicule, je ne vais quand même pas utiliser ça. Il y a une sorte de discrédit, une intériorisation du discrédit.
Merci beaucoup, en tout cas, David Le Breton, d'avoir été notre invité ce matin. Un grand merci également à Laetitia Merli. Je rappellerai plusieurs de vos ouvrages, David Le Breton. Le dernier en date, Tenir, douleur chronique et réinvention de soi, qui est paru chez Métayer. C'était là,
il y a quelques mois.
Merci infiniment. Un grand merci également à Laetitia Merli de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappellerai, vous êtes anthropologue, un spécialiste du chamanisme. On a eu l'occasion de l'entendre, auteur de très nombreux documentaires, La revanche des chamans, Chaman en ville et beaucoup d'autres. On peut retrouver tout ça sur Internet, mais aussi un ouvrage, De l'ombre à la lumière, de l'individu à la nation, ethnographie du renouveau chamanique en Mongolie post-communiste, avec, on l'entendait tout à l'heure, ce rôle effectivement du chamanisme dans la reconstruction de l'identité nationale mongole. Un grand merci d'avoir été avec nous. Presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver notre chaman en chef.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Un chaman qui nous parle du cool cette semaine. Un universitaire américain vient de publier un essai sur les origines du cool. À l'origine, le cool désigne un courant du jazz, vous nous en avez parlé hier, qui se réfère au jeu de Lester Young, mais dont les trois coups sont véritablement frappés par Miles Davis en 1949 et 1950 avec Birth of the Cool.
Oui, sauf qu'on oublie, lorsqu'on évoque cet album mythique de Miles Davis, qu'à l'époque où il enregistre ses morceaux en compagnie des saxophonistes Jerry Mulligan et Lee Konitz, le 33 tours n'existe pas encore. Ce n'est qu'en 1957 que les morceaux enregistrés donc entre avril 49 et mars 50, diffusés alors en 78 tours, seront réunis sur un seul disque, un album qui porte donc le titre manifeste de Naissance du Cool. Et c'est alors seulement que le jazz cool va devenir un mouvement bien identifié, une école musicale. D'ailleurs, Birth of the Cool n'est pas si cool. Il demeure imprégné de bebop, en particulier la section rythmique. C'est plutôt Miles Ahead de 1957 qui est vraiment l'album cool de Miles. Mais qu'est-ce qu'être cool? À l'origine, ce mot désigne en anglais le climat, la température, ni trop chaud, ni trop froid. Or, dès le XVIe siècle, il commence à prendre un sens figuré, renvoyant à un état d'esprit mesuré, calme et rationnel. Ainsi, sa mère exhorte Hamlet à asperger d'une cool patience la chaleur et la flamme de son humeur enfiévrée. Reste cool, Hamlet. C'est le sens qu'a conservé le mot dans des expressions anglaises comme with a cool hand, qui signifie le fait d'aborder un problème avec sang-froid, rigueur, sérénité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement exhorte les Britanniques à rester calmes et à ne pas céder à la panique, keep cool, malgré les bombardements aériens allemands. Alors, qu'est-ce qui est cool ? Deux psychologues de l'université de Rochester, New York, Dar Nimrod et Ian Hansen, ont mené une série d'expériences pour tenter de le déterminer avec précision. Ils ont présenté à un panel de volontaires des associations d'idées afin de tenter de préciser ce qui est ressenti comme cool. Alors, deux groupes d'associations se sont dessinés. Ils ont baptisé le premier « Catch at Coolness » et le second « Contrarian Coolness ». Et cette distribution montre bien l'ambivalence de la catégorie du cool. Car « catch at » en anglais renvoie à la notion de prestige. Le « catch at cool » est, disent nos psychologues américains, socialement désirable. Il est décrit comme à la fois attractif et amical. En français aussi, une fille « cool » désigne une personnalité bienveillante. « Contrarian » évoque la seconde polarité du cool. Le mot évoque alors une dureté ironique et rebelle. Lauren Bacall incarnerait bien la première et son compagnon Humphrey Bogart le second. À eux deux, donc, ils présenteraient les deux faces de la coolness.
Alors Brice, dans le livre dont vous nous parliez hier, The Origins of the Cool in Postwar America, il était question en effet du film noir. Quel rôle joue ce genre cinématographique dans la genèse du cool ?
Eh ben, dans son livre, Joel Dinerstein montre que les acteurs vedettes de ce genre cinématographique arboraient systématiquement le visage impassible des joueurs de poker. Bogart, mais aussi Robert Mitchum, seraient les parangons du cool à l'écran, anticipant Marlon Brando, qui serait lui l'incarnation du cool. Pas d'émotion apparente, sinon une vague ironie, dénotant un fort coefficient de confiance en soi, le sentiment de sa propre supériorité. Il y a un élément de machisme dans le cool, convient Dinerstein. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu aussi, à la même époque, celle de l'après-guerre, donc, des femmes vraiment cool. Duke Ellington disait ainsi de Billie Holiday qu'elle était l'essence même du cool. Il voulait caractériser ainsi la capacité qu'avait Lady Day de conserver son élégance souple et relaxe, même dans les morceaux les plus pathétiques. Et il évoque aussi dans son livre Simone de Beauvoir. Mais personnellement, si je devais décerner le titre de française la plus cool des années 50, mon choix se porterait sur Françoise Sagan. Une jeune fille, un peu désabusée, prenant son succès planétaire avec toute la désinvolture souhaitable, qui conduit son Aston Martin pieds nus, voilà qui était vraiment cool. Pour Dinerstein, le cool a constitué une réaction euro-atlantique des sociétés enrégimentées durant les combats, une manière de réaffirmer les droits de l'individu à l'épanouissement après les privations de la guerre, les contraintes et les restrictions. D'où l'intérêt qu'il porte d'ailleurs aux caves de Saint-Germain-des-Prés. Qu'à mon avis, il a un petit peu trop tendance à confondre avec l'existentialisme. Enfin, Miles Davis flirtant avec Juliette Gréco, parce que vous savez que c'est arrivé, et enregistrant la même année la musique du film Ascenseur pour l'échafaud à Paris, vous avez là l'existentialisme, le jazz et le film noir, les trois ingrédients de l'origine du cool, selon Dinerstein. Reste à comprendre comment le cool est devenu le langage de référence des jeunes en se confondant avec le rock, ce pourquoi Dinerstein, qui ne s'entend guère au rock, ne nous cette guerre. C'est ce que lui reproche d'ailleurs le critique musical du Guardian John Harris dans Prospect de ce mois-ci. Pour ce dernier, c'est précisément à partir de sa recréation par Elvis Presley dans les années 50 que le cool a pu devenir l'attitude caractéristique de la jeunesse mondiale. Comme on sait, le roi du rock ne s'est pas contenté de s'inspirer de la musique des Noirs du Sud, il baignait littéralement dans leur culture. De même, John Harris réfute la thèse de Dinerstein selon laquelle le cool aurait pris fin de manière définitive au début des années 80 avec le glamour, le fric et la frime qui remplacent la retenue ironique et la maîtrise distanciée qui était le fait du cool. Toute l'histoire du rock est marquée au contraire, à mon avis, par l'irruption de mode musique inspirée par le cool, il ne s'est nullement arrêté en 1979.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique magnifique sur le cool, hyper cool. Donc Billie Holiday, l'essence même du cool. D'ailleurs, je me dis que peut-être demain, il faudrait réécouter un petit peu de Birth of the Cool. Hein. Ça serait peut-être l'occasion puisque vous allez poursuivre sur cette thématique.